Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le Brief, le podcast qui vous aide à améliorer les contenus de votre interface web ou mobile. Deux fois par mois, je pars à la rencontre des écrivains du web UX writers, content designers, copywriters et autres rédacteurs web. Au cœur de nos discussions, l'utilisateur. Parce que nos métiers servent à dialoguer, à échanger avec un être humain. Gardez ça en tête. C'est une bonne situation, ça scribe ? Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais je dois avouer que la mienne me sied à merveille. Aujourd'hui, chacun rivalise d'originalité pour communiquer de la meilleure manière possible. Seulement voilà, Jean-Michel Communication a beau avoir les meilleures idées du monde, les retranscrire et bien les écrire, c'est une autre paire de manches. Et c'est là que j'interviens. Cet extrait que je viens merveilleusement de jouer, vous en conviendrez, est tiré de la description de Louise sur LinkedIn, qui m'a fait mais tellement rire, je dois avouer qu'elle m'a carrément tapé dans l'œil. Et elle est sacrément douée pour donner envie de bosser avec elle. Avec Louise, on a décidé quasi en même temps de s'orienter vers l'UX Writing, et quand j'ai découvert sur LinkedIn, j'ai direct eu envie de faire un épisode avec elle. Pour savoir comment elle en est arrivée là, comment elle a découvert l'UX Writing, pourquoi elle a souhaité se spécialiser sur ce métier, comment se passent ses premières missions et quels obstacles elle peut rencontrer. C'est pas un épisode habituel où j'interview mon invité. Là, on parle toutes les deux, en toute transparence, de notre montée en compétences et de nos premières expériences en tant qu'UX Writer. Mais trêve de bavardage, je laisse place à ma conversation avec Louise Ballereau. Bonne écoute! Salut Louise!
Salut!
Je suis super ravie de t'accueillir dans Le Brief.
Ah mais tout pareil en vrai, je suis vraiment hyper contente d'être là.
Je pense qu'on était surexcitées toutes les deux de faire l'épisode. Et ça va être un épisode un peu particulier parce que ça va être plus en mode discussion parce que on est rédactrice web toutes les deux et on débute sur le UX Writing. J'ai vu il y a quelques semaines que tu avais écrit sur LinkedIn, ah, ça y est, le grand jour est arrivé, je me lance, je fais aussi de l'UX Writing. Et je sais plus comment j'avais découvert ton profil sur LinkedIn, mais j'avais rigolé, mais je crois que mon mec a dû demander qu'est-ce qui lui arrive, quoi. C'était vraiment très drôle. Et du coup, je me suis dit que ce serait hyper intéressant d'échanger toutes les deux sur notre parcours et pourquoi on se lance un peu sur le UX Writing. Ouais. Et puis, toi, quels sont tes projets? Ça va être vraiment en mode discussion, donc n'hésite pas à poser tes questions aussi. Voilà.
Trop cool.
Bon, on va essayer de pas faire trop long non plus, mais bon. Et puis, voir aussi si on est au même point et comment tu te formes. Enfin bref, vraiment plein de questions. On a essayé d'éviter de se spoiler quand on s'est appelé. Et là, tu commences à parler de ton parcours. Bon, on va enregistrer, on va y aller.
On a plein de choses à se dire. Je pense qu'on va en parler après, tu vois, au niveau des formations et tout ça. Mais il n'existe pas de formation universitaire du UX Writer, même pas de formation universitaire de rédacteur.
Ouais, c'est clair.
Et donc, du coup, Je pense que quand on cherche à se former, on cherche à trouver des bons supports justement pour avoir les bonnes infos. Et je trouve génial du coup ton initiative d'avoir fait un podcast où tu parles aussi de ces trucs-là. Quoi.
Bah du coup, vu qu'on parlait de ton parcours juste avant de positionner le micro, comment t'es devenue rédactrice web? Ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus.
Alors, ça fait officiellement un an et demi. Officieusement, en fait, ça a commencé un peu avant. Alors, je te préviens, c'est un parcours, encore une fois, qui dit j'ai un parcours normal? J'ai un parcours atypique, voilà, comme 99% de... C'est pas du tout original d'avoir un parcours atypique. Mais du coup, j'ai commencé les études commerciales, j'ai juste fait un BTS MUC en fait, et je voulais vraiment m'orienter dans quelque chose de très différent parce que je voulais partir dans l'équitation qui était ma passion, tout ça.
Okay.
Et je voulais du coup aller à Saumur et faire de l'équitation vraiment toute ma carrière. Et en fait, j'ai été refusée de l'école nationale d'équitation.
Ok, dur.
Très dur. Et donc, c'était pour moi un, un flop total, c'était l'horreur, j'ai pleuré pendant des jours et des nuits. Et derrière, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de partir vers un BTS MUC. Et puis après ça, je suis rentrée dans des entreprises en B2B. Déjà, mon BTS, je l'ai fait en alternance. Et j'ai tout de suite été très attirée vers le monde de l'entreprise.
Ouais.
Et c'est en 2016, du coup, lorsque j'étais conseillère en gestion de patrimoine dans une banque privée, que je faisais beaucoup de prospection. Et je faisais beaucoup de prospection téléphonique. Et en fait, en vrai, ça me saoulait. Je me prenais des râteaux H24. Et vraiment, je comprenais que les dirigeants n'en peuvent plus. Et déjà, tu tapes des barrages secrétaires, tu tapes... tout ce qui va avec. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux changer ça, moi, de mon côté, sans faire de la prospection téléphonique? Et donc, j'ai donc créé un mail de prospection destiné à LinkedIn et aussi à ma base de prospects, du coup, par mail.
OK.
Et à ce moment-là, mon taux de prise de rendez-vous a littéralement décollé. Et je me suis fait convoquer la semaine suivante, enfin, par le directeur de l'agence, qui m'a dit, écoute... En gros, alors je vais résumer, ils pensaient que je trichais en utilisant une plateforme externalisée de prospection. Parce que vraiment, mon taux de prise de rendez-vous avait augmenté de 90% en une semaine. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, mais le pouvoir des mots, c'est un truc de malade. En sachant que, bien évidemment, je pense que comme tout rédacteur, je ne vais pas dire qu'ils respectent, parce qu'il y en a certainement qui ne sont pas dans le même mood, mais je suis passionnée de littérature, de mots et tout ça, et...
T'es plus à l'aise à l'écrit
Plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. J'espère que ça s'entendra pas trop, du coup, sur ce podcast.
Bah non, parce que t'es hyper avenante et je vais pas dire non, tu parles beaucoup, non, pas du tout, mais c'est juste que tu parles aisément et tout ça, tu vois. Et ça, c'est une question que j'ai en tête aussi, introvertie versus extravertie, j'aimerais qu'on aborde, mais vas-y, je te laisse continuer.
Et du coup, je vais essayer de faire un peu court, parce que à partir de là, en fait, j'ai commencé à utiliser la rédaction dans mes postes de commercial. J'ai formé du coup des personnes de l'agence en interne, tout ça, parce que voilà, je sentais vraiment que ça prenait de l'ampleur et que ça me passionnait beaucoup. J'ai changé de boulot entre temps, j'ai eu plusieurs autres boulots et j'ai gardé toujours ça dans un coin de ma tête. Et en fait, c'est en 2019 que je dis pas, ouais, c'est ça, 2018-2019. Que vraiment je me suis dit, ok, il faut que je me lance dedans parce que c'est vraiment tout ce qui m'anime et j'adorais ça. En fait, j'avais envie de faire que ça alors que j'étais commerciale et je cherchais par tous les moyens je cherchais vraiment à chaque fois à écrire des nouveaux mails, à écrire pour du coup l'entreprise en interne ou à écrire pour mes collègues. J'étais devenue la personne à qui on venait demander les trucs et j'adorais ça, sauf que évidemment je me faisais engueuler derrière parce que je faisais passer, tu vois, mon job de commercial à la trappe et du coup mes résultats ne suivaient plus. Et le déclic, ça a été, ça a été mon mec qui lui du coup est magicien professionnel.
D'accord.
Et en fait lui, je me suis dit, putain, mais le gars a arnaqué tout le monde. Il a pris son métier, enfin sa passion, je sais même plus d'ailleurs du coup, et il en a fait son métier. Il a dit aux gens, payez-moi pour ça.
Ouais.
Et ça marche, mais du feu de Dieu. Et puis en fait je me suis dit, c'est quand même... C'est fou de voir quelqu'un tous les matins se lever pour faire ce qu'il aime. Jamais, je ne l'ai jamais entendu se plaindre de quoi que ce soit. Tout est bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, allez, c'est bon, je me lance. Et je me suis lancée pendant que j'étais salariée, parce que étant donné que j'avais pas de formation, je me voyais très mal reprendre du coup un master en fac de lettres, retourner sur les bancs de l'école à 27 ans, c'était compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais commencer à me former. Je pense un sujet qu'on va aborder, mais directement en ligne. Comment est-ce que je vais trouver du coup les bonnes formations, les bons trucs? Je voyais de tout et de n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, du coup, j'ai commencé vraiment à bosser. Dès que je rentrais du taf, je me mettais sur mon ordi et je bossais. Je faisais je regardais plein de vidéos YouTube en anglais, en français. Je regardais évidemment du coup aussi. Il y avait des formations de Google, les ateliers numériques, le SEO, qui sont hyper intéressantes et qui sont très bien, très très bien faites. Et puis, évidemment, du coup, il y a aujourd'hui plein de rédacteurs qu'on connaît et qui ont plein de formations en ligne, gratuites, payantes. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me former comme ça. J'ai commencé à chercher mes premiers petits contrats payés au lance-pierre, mon Dieu. Et puis, en fait, ça a commencé à se lancer. J'ai commencé à rentrer dans des réseaux. J'avais déjà beaucoup de réseaux, en fait, grâce à mes... boulot de commercial en B2B avant, parce que je travaillais uniquement avec des dirigeants, en fait, quasiment. Et à ce moment-là, j'ai recontacter les autres. Puis quand tu sais, tu changes ton métier sur LinkedIn, automatiquement, tout le monde le voit. Ça fait une notif, enfin, pas une notif, mais en tout cas, ça apparaît dans ton feed d'actu. Et j'ai demandé une rupture conjoint, le temps du coup de tout bien remettre en place, tout ça. Et au moment où j'ai eu la rupture conjoint, vraiment pour le coup, j'étais déjà lancée. En fait, j'ai vraiment pu continuer sur une lancée dynamique, quoi.
Et ça a pris combien de temps, du coup, entre le moment où tu as décidé je me lance et cette rupture conventionnelle et le temps plein, en fait?
Le moment où j'ai décidé je me lance, c'était été 2019. Enfin, je me lance à plein temps, sachant que j'avais déjà créé mon auto-entreprise avant en étant salarié. Mais au final, je gagnais quasiment rien. C'était vraiment... plus de travail, d'apprentissage, exactement, et d'entraînement qu'autre chose. Et ensuite, du coup, ça, on va dire que je l'ai annoncé vers septembre à mon employeur, qui me dit « Oui, ok, reviens vers moi en octobre. » Ok, très bien. Du coup, en octobre, je reviens vers lui. Il me dit « Oui, non, mais reviens vers nous en novembre, parce que t'es un bon élément, tout ça, tu sais, on a besoin de toi. » Et moi, du coup, évidemment, je me sentais hyper saucée. J'étais là « Oui, d'accord. » Et puis en fait, en janvier, j'ai lui écrit une lettre que j'ai publiée sur mon blog. Et j'ai écrit vraiment une lettre en lui disant « Écoute, en vrai, j'ai vraiment envie de faire ce que je kiffe. Et viens, en fait, on fait un truc à la cool. Voilà, exactement, mais on reste en bon terme, tout ça. Viens, on l'a fait cool et s'il te plaît, quoi. Mm. » Et il est revenu vers moi 2 semaines après en me disant « Bon, allez, c'est bon. » Et il m'a dit « C'est bon, mais tu restes encore 3 mois. » Donc, du coup, j'ai demandé ma rupture con en septembre et je suis officiellement partie de mon taf en avril, le 30 avril 2020.
Ah ok, d'accord. Ouais.
Donc voilà. Et pour le coup, c'était très compliqué parce que en fait, à partir de janvier, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir de plus en plus de taf.
Ouais.
Et là, pour le coup, c'était très très compliqué de concilier les deux. Parce qu'au début, c'était des petits trucs au lance-pierre, une page web, tout ça. Puis en vrai, c'était payé pour un caillou. Et là, pour le coup, je commençais vraiment à avoir des vrais projets et c'était vraiment compliqué.
Ouais, bah tu m'étonnes.
Mais par contre, quand ça a été fini, là, autoroute, quoi, vraiment. Donc voilà. Et toi, du coup, c'est pareil, en fait, tu t'es lancé il y a...
J'ai un parcours atypique. Franchement, c'est vrai, qui dit normal? Le jour où on dit j'ai un parcours normal.
Oui, c'est vrai, mais personne ne dit ça.
Et je pense que c'est à peu près le même schéma, sauf que ma rupture conventionnelle, moi je l'ai eu en un mois de temps, ouais. Donc ça a été. Mais moi à la base, j'ai un master management des établissements de santé, j'étais partie pour faire médecine, bon je l'ai pas eu, et au final j'ai fait une école pour dire de rester dans la santé, etc. Alors que en plus de ça, en terminale, j'étais plutôt partie pour faire Sciences Po et ensuite journaliste.
Ah.
Parce que j'ai toujours eu aussi cet amour des mots, etc.
J'allais dire, on est plus dans la branche déjà de l'action.
Et donc du coup, après ce master management des établissements de santé, je me suis dit, au moment où je me suis diplômée, je m'en souviens, j'ai dit, je peux faire ce que je veux. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion-là. Et puis du coup, j'ai eu mes premières expériences pro, même si j'avais eu des stages, des alternances avant. Et puis là, j'ai un peu déchanté, quoi. Parce que c'est pas... Je kiffais pas non plus ce que je faisais. Le management, c'était pas génial dans mes différentes expériences. Et je savais que j'avais envie de me lancer. Pendant 4 ans, je pense, j'ai eu plein d'idées pour me lancer dans l'entrepreneuriat, mais n'importe quoi. Enfin, vraiment, j'ai eu des tas d'idées. À chaque fois, je descendais de mon bureau ou je venais dans la cuisine et je disais, mais j'ai une idée. Alors ça va être génial.
Et c'était aussi saoulée. Le genre de nana, du coup, à avoir genre 10 000 projets, 10 000 idées à la minute où tu te dis oh, « Attends, ce serait pas mal si je faisais ça. »
Mais j'ai réussi à me calmer là depuis que je me suis dit « Bon, stop, à un moment donné. »
Tu fais sur un truc.
Et donc, du coup, en plus, ma dernière expérience salariée, c'était... je faisais de la gestion de projet dans un réseau d'entreprises. Et l'idée, c'était de favoriser les opportunités de business entre entrepreneurs.
Ouais.
Donc, tout le temps, en contact des entrepreneurs. Et là, je me suis dit, non, il n'y a pas photo. Et tout ce qui est rédaction web, j'ai appris... J'avais eu plusieurs blogs. J'ai tout appris sur le tas. J'achetais des livres sur le référencement. Enfin, voilà, c'était vraiment... C'est pareil, et je me souviens, en avril 2019, enfin en mars 2019, j'ai eu un premier client, et du coup j'ai demandé à ma boîte de passer juste à temps partiel, mais bosser 4 jours semaine pour eux.
Ils sont hyper cool.
C'est vraiment une petite structure, et dirigée par, parce que c'était une asso dirigée par des entrepreneurs, donc du coup il y a ce, je pense, ce truc là de voilà, et puis en fait il y a eu un projet de fusion dans ma boîte, et enfin avec une grande boîte pour le coup. Et là, je me suis dit, ouais, non, c'est la goutte de trop, et je sais que c'est le moment. Et donc, du coup, en avril, je passais à temps partiel, et au 1er juillet, j'étais à temps plein, en fait.
Sur toute ton activité de
réponse. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, rupture conventionnelle, acceptée tout de suite et tout, aucun souci. Et du coup, en 1er juillet 2019, donc ça fait ça va faire un an et demi. Bientôt, enfin dans quelques temps. Et ouais, j'ai tout appris en autodidacte, quoi. Et je trouve que j'ai tellement progressé depuis. Ouais. C'est un truc de dingue, en fait.
Mais je voudrais qu'on en parle. Est-ce qu'on peut parler de vraiment de la mine d'or?
Parlons-en.
On peut trouver, mais par en fait, alors peut-être que du coup, je suis vraiment dans le monde des bisounours. J'ai absolument pas l'impression de connaître de concurrence déloyale ou de concurrence vraiment dans le monde de la rédaction web.
Pareil.
En fait, en partant du principe que tu vois, déjà, t'as des centaines de milliers de sites web qui naissent chaque jour. Je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde.
Ouais.
Et on a tous une manière de travailler, enfin, tous et toutes, du coup, une manière de travailler tellement différente que, voilà, mais t'as des gens aujourd'hui qui, bah, commençaient par toi, tu vois, avec ton podcast, qui publient aujourd'hui des contenus, mais qui sont hyper qualitatifs. Mais vraiment hyper qualitatifs. Et moi, je me nourris, mais H24 de ça. Je pense que vraiment, sur une journée, je passe littéralement 3 heures par jour à lire, parfois même dans mon lit le soir et tout, tu vois, mais je passe 3 heures par jour, soit à écouter des podcasts, un nouveau podcast, un nouveau contenu, soit à lire des newsletters. Je me suis abonnée à plein de newsletters de rédac, de content stratégiste, d'UX, de writer, du coup. Mais je trouve qu'on a une espèce de mine d'or, et tous les jours, j'apprends des trucs. Et parfois, je me dis, putain, mais attends, j'ai fait de la merde, du coup. Ça veut dire que ça, je l'ai hyper mal fait. Et ça me paraît tellement logique. J'ai limite envie de me dire, attends, je vais tout recommencer, quoi.
Oui, il y a cet aspect passion qui t'amène à consommer tout le temps. Pour le coup, moi, j'écoute des podcasts. Là, je suis venue en voiture, j'écoute un podcast. Je me prépare, j'écoute un podcast, je lis. J'ai demandé une liseuse à Noël parce que j'en ai marre de lire sur écran, tu vois. Et donc, du coup, j'ai demandé une liseuse. Et je vais lire dans le lit, quoi, forcément, tout le temps, tu vois. Et puis aussi, le fait qu'on est... qu'on est un peu seul dans le bateau, même si on échange avec dans des réseaux, des communautés, etc. Du coup, ça nous force à progresser encore plus. Et c'est vrai que moi, au début, je m'étais lancée, j'avais les bases, mais je me suis dit, allez, YOLO, quoi. Vas-y, parce que t'es déjà plus experte que tes clients, en fait, dans tous les cas. Et t'as ce temps à accorder qu'eux, ils n'ont pas.
C'est une super réflexion, je trouve,
vraiment. Et donc, du coup, sur le tas, quand tu pratiques, t'apprends carrément plus vite, quoi.
Mais c'est ça, mais tu vois, je trouve que cette réflexion, elle est hyper intéressante. Et encore une fois, je me suis jamais fait alpaguer par des confrères ou des consoeurs qui me disaient « Non mais attends, t'es pas diplômée en fait, qu'est-ce que tu fais là ?» Et le truc, c'est qu'au début, tu vois, j'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur où je me sentais pas légitime, où je me disais « Attends, mais... j'ai pas de formation, quoi. T'en as qui font vraiment des facs, des masters, du coup, en lettres appliquées, en... des trucs de malade. T'as une rédactrice que j'adore vraiment sur l'île, qui a un site qui s'appelle White Elephant, qui est hyper bien fait.
Ok.
Et cette nana-là, du coup, elle est docteur en linguistique.
Ah,
et
ouais,
donc,
d'accord.
Tu vois, quand en fait je regardais un petit peu ce qui se faisait autour de moi, je me sentais mais tellement illégitime en me disant, mais attends, mais comment ? Et je pense que tu l'as un peu bien résumé avant, quand t'es passionné par quelque chose, vraiment. Et en fait, tu peux déplacer des montagnes.
Ouais.
Je pense que tu peux faire vraiment un master, un doctorat en dentaire, si tu veux. Si t'es absolument pas passionné par les gencives, bon, tu vois, à un moment donné, je sais pas trop ce qui peut se passer de plus. Alors que tu peux juste vraiment travailler, encore une fois, 3 heures par jour, en plus de tout ce que tu fais avant sur la chose qui te passionne, mais tu vas tellement mieux l'assimiler, du coup. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et maintenant, en fait, au plus je me forme, au plus je me sens légitime. Ouais. Et au plus mon discours se rôde aussi. Je sais pas pour toi d'ailleurs, je vais te poser la question au niveau de ton discours auprès de tes clients, et notamment par rapport à l'UX, comment est-ce que toi, du coup, tu l'amènes maintenant ?
Déjà partie rédaction web, de temps en temps, ça m'arrive encore d'avoir le syndrome de l'imposteur, mais ça va encore, surtout parce que... Je peux l'avoir parce que mes clients, en fait, en général, je leur envoie l'article, et soit j'ai pas du tout de retour, mais je vais sur le blog, je vois que c'est publié.
Ça m'arrive aussi.
Mais moi, c'est souvent quand même. Et du coup, je me dis, bon, ça leur correspond. Ou soit ils me disent très bien ou excellent, tu vois. Mais il n'y a pas de retour constructif. Et du coup, au final, je sais pas qualitativement si je suis bonne ou pas, tu vois.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et donc, du coup, là, depuis quelques temps, j'ai intégré une communauté justement pour améliorer encore plus mon écriture et puis avoir aussi des retours sur ce que je fais. C'est hyper important pour moi. Et tu vois, ce matin, avant de venir, il y a une agence en fait qui m'avait contactée sur LinkedIn hier pour écrire une dizaine d'articles sur la e-santé. Et en plus, moi, c'est mon secteur de prédilection, la santé de manière générale. Et en fait, je pense qu'elle a carrément senti, quand on s'est eu au téléphone, mon assurance. Je pense que j'ai posé les bonnes questions et j'étais sûre de moi. Et j'étais pas du tout dans une relation où c'est une agence qui sous-traite, en fait. On était vraiment dans une relation partenariale. Et pour le coup, j'ai gagné en assurance en termes de stratégie, aussi savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que ouais, tu me dis de rédiger un article, mais est-ce que ça compte la recherche de mots-clés? Est-ce que ça compte les visuels? Est-ce que ça compte tout ce qui est méta-description? Enfin, plein de choses. Ouais, et là, pour le coup, je me sens complètement à l'aise avec ça. Et en UX writing, qu'on va y venir, là pour le coup, j'ai un putain de syndrome de l'imposteur. Enfin, j'en avais un énorme, et il y a 3 semaines, maintenant j'ai décidé un dimanche, j'étais assise dans mon canapé, comme ça, je me posais 10 000 questions, tu vois. Bon, j'y vais pas, parce que j'y allais un peu à tâtons. Ouais. Et là, je me suis dit, fuck, on y va. Et toi, le syndrome, tu dégages un petit peu là, tu me fais de la place. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à contacter des UX writers pour faire pour alimenter mon podcast. D'un côté, ça me permet d'apprendre clairement, ça permet de sensibiliser en fait, parce que l'UX writing en France, déjà l'UX design, il y a une montée et ça commence à bien fonctionner, mais moi, surtout secteur santé, c'est pas encore hyper répandu, donc l'UX writing, n'en parlons pas. Donc pour moi, c'est hyper important de sensibiliser les entrepreneurs, mais surtout les UX designers et aussi les rédacteurs, parce que j'ai pas mal de rédacteurs qui me contactent ou même de développeurs qui me contactent. Et du coup, ça me permet de... l'UX writing, j'en fais un petit peu, mais pas tout, vraiment tout le métier, parce que tant que je suis pas en équipe au sein d'UX designer, pour moi, j'ai pas toute la possibilité de m'exprimer sur ce métier, quoi. Et donc, du coup, c'est à travers le podcast que j'apprends et aussi que je sensibilise et aussi que je me fais un nom, clairement. Ouais. Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de UX writers en France. Et l'idée, c'est de devenir un peu une référence à la longue terme, tu vois.
Alors du coup, les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais on met des guillemets quand on entend pas.
Ouais, c'est ça. Syndrome, il est là, tu vois, en fait. Il est là, il est dans les doigts.
Mais en fait, le truc, c'est que je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai découvert le UX writing par un super pote. En fait, qui est un ancien collègue de mon ancienne boîte et qui était chef de projet digital, lui, dans cette boîte-là. Et qui, aujourd'hui, travaille pour un gros groupe en Suisse. Il a un super poste aussi dans le digital et tout ça. Et en fait, un jour, il m'envoie un message en me disant « Est-ce que tu connais l'UX writing ?» il faut absolument que tu fasses ça, tout ça. Et c'était il y a un an à peu près. Et du coup, je dis et vraiment, pas du tout. C'est-à-dire que déjà, UX, pour moi, je savais plus ou moins que c'était dans un truc dans le web. Et UX, je ne savais même pas ce que voulait dire UX, tu vois. Et donc, voilà. Et donc, du coup, il m'explique en deux mots ce que c'est. Et je lui dis, ouais, ok, super, mais c'est tout. Et en fait, il me dit, mais le truc, c'est que tu te rends pas compte à quel point nous, du coup, dans le digital, on a besoin de ça, en fait. Mais sur absolument, du coup, toutes nos plateformes, que ce soit en desktop, du coup, sur de l'application, sur... Enfin, en fait, bref. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur, du coup, ce qu'était l'UX et l'UX Writing, évidemment. Et je n'ai trouvé aucun contenu en français.
Ah bah oui, non.
Mais aucun. Et donc, alors, bien heureusement pour moi, du coup, je ne veux pas dire que je suis complètement bilingue, mais en tout cas, je parle anglais couramment et je lis sans problème en anglais. Et donc, j'ai regardé ces vidéos en anglais qui étaient déjà très, très bien... très bien faite. Et puis, il y avait aussi, du coup, des articles en anglais. Il y avait un article, dont je me souviens, sur Welcome to the Jungle.
Et qui
était hyper bien expliqué, où Anthony Marquez, qui, lui, pour le coup, est vraiment un des pionniers de l'UX Writing en France, il expliquait très, très bien le métier, tout ça. Et je me suis dit, mais waouh, mais c'est si intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Et en fait, encore une fois, moi, c'est là que je me suis dit, non, mais... Quand on t'apprend la rédaction web, mais quelle que soit, enfin, je vais pas dire quelle que soit la formation parce que je les ai pas toutes faites, je les ai pas toutes testées, tout ça, mais en tout cas, de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai vu, on t'apprend jamais à mettre l'expérience client au cœur, du coup, de ta rédaction. C'est-à-dire qu'on te parle de faire de la rédaction pour avoir du SEO, pour avoir, tu vois, mais en fait, on ne parle jamais d'une rédaction qui colle parfaitement, du coup, à l'identité d'une marque, qui lui donne une personnalité, un ton de voix, tout ça. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment je me suis dit, mais en fait, pourquoi tous les rédacteurs ne sont pas UX writers, tu vois, parce que ça devrait... voilà. Et pareil, depuis... enfin, en même temps, j'ai découvert du coup en fait, tout ce qui est content stratégie, les marketing de contenu, tout ça. Et en fait, tout se rejoint plus ou moins.
Oui, oui, c'est clair.
Et c'est fou parce que je trouve qu'il y a un gros, gros manque d'informations et auprès des sociétés, et auprès du coup de certains, je vais dire certaines professions, tu parlais des UX, UI designers, tout ça, qui eux se disent pas toujours forcément oui, bah tiens, ça serait utile d'appeler quelqu'un du coup qui fasse les textes avec moi et avec qui on peut travailler vraiment bien pour avoir une expérience utilisateur qui soit la plus dingue possible. Et puis les entreprises aussi qui sont pas du tout assez sensibilisées et qui vont encore poser la question, pourquoi est-ce que toi t'as pas 4 centimes le mot comme la plateforme que j'ai utilisée le mois dernier et qui comprennent absolument pas du coup le pourquoi du comment et à qui justement il faut expliquer.
Oui, c'est notre job aussi en tant que freelance de sensibiliser, d'expliquer ce qu'on fait et je te rejoins complètement sur le besoin de s'adresser à quelqu'un. Déjà en plus en SEO, enfin Google par exemple se oriente de plus en plus sur l'intention de l'utilisateur, vraiment répondre en fait à l'utilisateur. Et moi c'est vrai que c'était devenu très frustrant pour moi d'écrire des articles sur des sites qui n'étaient pas compréhensibles. En plus moi en santé le jargon merci, mais qui n'étaient pas compréhensibles et qui guidaient pas en fait, tu vois, l'utilisateur, et ça devenait très très frustrant pour moi. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert l'UX Writing. Et après, moi, j'ai un entourage. Mon mec est UX designer. Il a des collègues et amis. Alors, je te racontais pas, moi, les soirées avant, là, qui... entre UX et UI, là, qui parlaient de trucs, je ne comprenais rien. Et ils rigolaient, tu vois, un peu les nouveaux geeks, quoi, entre guillemets, tu vois, l'horreur. Maintenant, je commence à comprendre ce qu'ils disent. Et c'est moi, maintenant, qui vais chercher mon mec pour dire « Ah, j'ai découvert ça et tout, tu crois que c'est intéressant ?» Et puis, on s'entraide aussi, mine de rien. Lui, il est salarié. Hein. À chaque fois, je lui dis « Bon, on fait une boîte et tout. » Mais non, il n'est pas du tout dans la fibre... Enfin, il n'a pas la fibre entrepreneuriale, Et ça, je l'ai accepté. Bah écoute, j'ai mis... Lui, il a son bureau au rez-de-chaussée. Moi, j'ai le bureau à l'étage. Donc, je suis le bureau de la direction, tu vois.
C'est très bien.
Et il l'a reconnu, donc voilà. il m'a filé tous ses bouquins sur le UX, etc. Et là, en janvier, je croise les doigts, je suis en train de faire mon dossier de financement. Je vais faire une formation de 5 jours du UX design.
Trop bien.
J'espère que ça va se faire et tout, parce qu'en freelance, sachez que vous avez le droit à quand même pas mal de budget. Enfin, pas mal. Je crois que moi, avec mon organisme, j'ai le droit à 1400 euros, tu vois.
Mais c'est déjà pas mal.
Ouais, mais c'est déjà pas mal. Et ça,
Et puis, si t'as été salarié, il me semble que t'as aussi cumulé. Mmh.
Moi, j'avais tout dépensé avant de partir, tu vois. Pour pouvoir faire justement des formations liées au marketing digital, à la rédaction. Mmh. Et ouais, moi, l'UX Writing, du coup, je l'ai découvert. Enfin, je pense que c'est mon mec qui a dû m'en parler. Et après, en même temps, allait sortir le livre de Kinrei Yefra. En français, c'est Microcopie, le guide de la microcopie.
Ah oui, mais oui, ok.
Et donc, du coup, je l'ai lu. Et à partir de ce moment-là, mon pocket, en fait, s'est rempli d'articles sur l'UX Writing. Ouais. Donc, j'en ai encore 36 000 à lire. Et j'ai repéré quelques formations, mais en anglais forcément.
Ouais, c'est ça.
Et en France, ouais, il y a pour l'instant pas beaucoup de... Ouais, il y a rien.
Y a même, c'est
je sais ça, qu'il y a des livres en cours d'écriture chez certains.
Mais ça, tu vois, c'est tellement le truc qui manque.
Mais c'est cool parce qu'il y a tout à faire.
Mais grave, et c'est pour ça, du coup...
T'as un boulevard, là. T'as un boulevard.
C'est l'animé qu'on mettait quand on disait, oui, pionnière, tout ça. Mais en fait, du coup, quand mon pote du coup m'a parlé de ça, je me suis dit, en fait, c'est vraiment le truc sur lequel il faut prendre le créneau tout de suite. Mmh. Parce que si tu le prends pas tout de suite, c'est comme tout, en fait. Et ben, les autres vont le faire à ta place. Et puis après, bon, c'est tout. Mais je me disais, si on le fait maintenant et qu'on se forme bien tout ça, moi j'adorerais pouvoir transmettre ce savoir d'ici quelques années, tu vois, aux personnes qui en ont besoin.
C'est vrai, moi j'ai toujours ce truc, j'espère un jour transmettre, mais je ne suis qu'au début, j'ai à peine, tu vois, j'ai fait trois petites missions du X Writing, mais pas dans sa globalité, tu vois, parce que j'ai pas encore travaillé avec des UX designers et tout en équipe. Et je m'imagine déjà transmettre le truc alors que je débute. Et en sachant que y a quand même quelques UX writers qui ont démarré il y a 3-4 ans quand même. Et en France, je pense, après avoir contacté pas mal d'UX writers, j'ai l'impression que ça a commencé surtout chez Blablacar. Il y en a plein. Enfin, il y en a plein. C'est relatif, hein. Mais il y en a plusieurs qui sont passés chez Blablacar et qui ont constitué cette équipe-là. Moi, je trouve que c'est une façon, dans tous les cas, des grandes boîtes.
Mais c'est ça. Après, du coup, t'as tout le... Je vais... Alors qu'en plus, Blablacar, pour le coup, c'est
en France,
une culture...
Hein,
ouais, c'est pas une culture anglo-saxonne. J'avais entendu parler de Orange aussi, qui avait fait pas mal de trucs. Mais encore une fois, on parle de gros groupes. Tu vois, je vais pas dire du CAC 40, mais on n'en est pas loin quand même. Et... Enfin, si, en fait, tu vois, on y est. Et aujourd'hui... c'est même, tu vois, je sais pas pour toi avec quelle typologie de client tu travailles. Est-ce que tu travailles avec des agences comme marketing, web, du coup?
Je travaille avec aucune agence, ce sera peut-être ma première, celle que j'ai eue au téléphone ce matin, parce que j'ai vraiment à cœur d'être au contact, en fait, avec l'entrepreneur directement pour avoir sa vision des choses, en fait, sa vision de son entreprise. Et souvent, enfin, franchement, tous mes clients, il n'y en a aucun qui a développé vraiment une identité de marque. Identité de marque, quand je parle ça, on pense tout de suite à l'aspect visuel, à l'aspect graphique, les logos, la charte graphique, etc. L'identité de marque, c'est aussi la vision, la mission de la boîte, les cibles, mais vraiment très détaillées, le positionnement, les valeurs, etc. Et il n'y en a aucun qui a travaillé sur ça. Et c'est compliqué d'écrire des articles et c'est compliqué aussi d'écrire des micro-contenus sur les interfaces. Et j'ai vraiment à cœur de travailler avec eux cette partie identité. Et le type de client, du coup, pour l'instant, moi, mes missions, c'est de faire cette partie identité, mais en UX writing qu'on appelle tone of voice, et de faire les contenus, pour le coup, pour un site web ou pour sa création ou sa refonte, quoi. J'en suis vraiment qu'à ça. J'ai failli avoir une mission, mais au final, la boîte a revu sa stratégie. J'avais un UX designer qui m'avait sollicité pour retravailler les micro-contenus d'une interface, donc ça aurait été trop cool. Mais pour l'instant, c'est vrai que je dois dire, je rame en fait. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, que je commence à créer des contenus sur les réseaux, parce que bah, il faut sensibiliser, il faut faire connaître.
Mais c'est ça, en fait, c'est ça que je trouve important. Mais moi, je pense que c'est aussi important de sensibiliser, tu vois, les agences. Parce que moi, je travaille avec certaines agences, et en tout cas, je suis sollicitée par des agences. Parce que quand tu fais partie de réseaux de communication, tout ça, c'est des gens qui te voient passer. Alors je vais te dire dans les soirées, mais en ce moment c'est un peu compliqué, ou dans des visios ou des trucs comme ça. En fait, les agences, elles sont encore bloquées pour certaines au tarif homo. Et je trouve ça fou qu'aujourd'hui une agence web qui prône du coup vraiment un site web qui soit dingue, tout ça, avec une super interface, tout ça, n'ait pas conscience de l'importance du coup d'un contenu, en fait. Et je parle vraiment d'un contenu éditorial avec une stratégie éditoriale. C'est-à-dire que j'ai mis un truc récemment là sur LinkedIn, et j'ai mis un site web sans contenu, c'est comme une raclette sans fromage.
Non, mais c'est clair.
Et en vrai, pour moi, c'est carrément ça. C'est juste que je pense que, évidemment, les tarifs, tout ça, c'est vraiment un sujet, je pense, qui commence à bouger dans la rédaction web, où les tarifs homo, en tout cas, c'est, je vais pas dire plus d'actualité, mais pour des travaux du coup qui sont aussi importants que les nôtres, où vraiment c'est pas qu'un travail de mot à mot, c'est vraiment un travail de réflexion sur toute une stratégie, sur effectivement toute une identité, un but, tout ça. Et j'avais un rédacteur au téléphone la dernière fois, très sympa et très intéressant, qui est la boîte Mister Edit, et qui me disait. Et j'ai trouvé ça vraiment d'une importance folle, et je lui ai piqué, d'ailleurs, je lui ai piqué, il dit toujours, quand il arrive en rendez-vous avec ses clients, il demande toujours pour qui vous le faites et pourquoi vous le faites. C'est deux premières questions qu'il pose, et en fait, moi, je ne l'amenais pas forcément comme ça.
Et là, c'est vraiment pas
exactement. Et là, en fait, c'est là qu'il m'a dit, mais c'est là que tu te rends compte de à quel point, du coup, tes clients peuvent être complètement paumés ou pas du tout. Et maintenant, je l'utilise. Et parfois, tu en as pour qui c'est hyper clair. Et puis, tu en as vraiment exactement qui sont pétrifiés et qui disent, pour nos clients, c'est-à-dire, quoi.
Ou d'autres, je te demande de la rédaction, pas de
ferme. Exactement, je te demande d'écrire et pas de rédiger, tout ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé de dire, dans ce cas-là, allez sur une plateforme, il n'y a pas de souci. Et vous aurez du coup le contenu que vous voudrez avec juste de la rédaction. Et en fait, je trouve que c'est vraiment important de sensibiliser et les UX designers. Et en fait, il y a quelques années encore, l'interface d'un site web, tout ça, c'était hyper important. Et au niveau du référencement, on cliquait évidemment sur le premier qu'on trouvait, tout ça. Et ça, je veux dire, c'est quasiment encore le cas. On va regarder dans les trois premiers résultats, dans la majorité des cas, mais on pensait pas autant du coup au contenu. Et en fait, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui les consommateurs, les utilisateurs, du coup, sont beaucoup plus exigeants sur la qualité de ce qu'ils voient, au vu de tout ce qu'on nous pond au niveau des sites web.
C'est ça, il y a tellement d'offres, que ce soit en termes de sites web que d'applications, logiciels et autres, qu'il faut vraiment se démarquer par une relation de confiance, en fait. Vraiment. C'est vraiment la construction d'une relation, que ce soit au travers d'articles, mais aussi de micro-contenus dans les interfaces web ou mobiles, où là, c'est vraiment fait pour guider, rassurer, encourager l'utilisateur. Et ça, c'est compliqué à entendre, quoi. J'ai parfois des clients, là, je reviens sur la partie article, qui, à la fin de l'article, ne peuvent pas s'empêcher de mettre une conclusion. Venez chez moi, nous on fait ça et tout ça, tu vois. Et je fais, ok, je veux bien qu'on mette une fois tous les X articles, mais pas tout le temps, parce que là tu fais du push, et la relation là, elle est à sens unique, quoi, clairement. Et il faut vraiment comprendre que la rédaction web, de manière générale, c'est une relation de confiance durable, et pas un commercial, qui, pour le coup, t'as des résultats directs. Mais ils ne vont pas forcément parler à d'autres, tes clients que tu as acquis, et c'est important pour se démarquer maintenant parmi tout ce qui existe, de construire une relation durable, en fait.
C'est ça. Je dis souvent à mes clients qui... En fait, le truc, c'est que quand on fait appel à un rédacteur web aujourd'hui, c'est pour de l'article de blog, tout ça, tu vois, souvent avec des clients en direct. Et le truc, c'est que ces clients-là, ils ont vraiment cette persuasion qu'en quelques articles, ils vont arriver tout de suite, soit premier dans le référencement, et je leur dis à chaque fois que c'est faux, quoi. Vraiment, que ce serait leur mentir.
On ne peut pas leur garantir des résultats.
Que de leur garantir, du coup, d'être premier sur Google. En tout cas, c'est... Ça peut arriver en plus, ça dépend du secteur, tu vois, ça dépend de tout. Mais à un moment donné, le truc, c'est que je pense réellement que derrière, si on explique bien, et d'ailleurs, en fait, c'est ça la question que je voulais te poser, je vais carrément la poser tout de suite, c'est quelle est ton approche? Du coup, comment est-ce que tu, aujourd'hui, tu approches, contrairement justement à il y a quelques mois, comment est-ce que, du coup, ton approche, elle a changé auprès de tes clients ou de tes prospects en leur disant, ben voilà, voilà comment moi, aujourd'hui, je vois les choses et comment tu le disais avant et comment tu le dis aujourd'hui, quoi.
Bah, avant, je le disais pas forcément. Enfin, on me demandait de faire un truc, je le faisais, et en termes de stratégie, j'étais pas du tout légitime à faire ça, et t'apprends sur le tas. Et t'apprends avec tes expériences, avec les erreurs qu'il y a, avec ce que tu vois chez tes clients. Et c'est vrai que maintenant, je leur dis, bah moi, ma façon de travailler, c'est ça. Moi, j'écris pour des gens. C'est important pour moi. Et le SEO, oui, c'est bien, mais c'est pas très important pour moi, parce que ce que je veux, c'est vraiment apporter de la valeur à des gens, à des êtres humains, en fait. Et le SEO, ça vient en second. Et de toute façon, maintenant, les moteurs de recherche, notamment Google, s'orientent vraiment sur une réponse qui apporte de la valeur à des utilisateurs, à des gens, à des humains, en fait. Et moi, j'ai vraiment cette approche-là. Et ils le comprennent. Franchement, ils le comprennent. Après, s'ils le comprennent pas, je fais pas.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai changé vraiment cette approche-là. Pareil, en fait, vraiment au fur et à mesure sur le tas. Et maintenant, je sens que vraiment mon discours se rôde de plus en plus. Et dès que j'apprends quelque chose qui me paraît vraiment essentiel, je le rajoute dans mon discours. Je me suis rendu compte à quel point l'authenticité dans la rédaction, dans tout, du coup, le copywriting, la rédaction, l'UX writing, tout ça, l'authenticité était aujourd'hui une valeur absolument essentielle pour l'utilisateur. C'est-à-dire que, en fait, tu vois tellement de trucs vraiment. Que si t'as pas un contenu authentique, tu sais même pas où te situer, vers où aller et quoi choisir. Et quand tu rencontres quelqu'un, du coup, qui vraiment te pose pas de questions en retour, qui te répond par oui, par non, qui est nous et tout, t'as pas forcément envie d'aller plus loin avec lui. Et quand tu rencontres quelqu'un d'hyper dynamique, d'extraverti, introverti, on va en parler plus. mais quand tu rencontres quelqu'un comme ça, justement, c'est là que, en fait, il y a une vraie authenticité chez la personne, quelqu'un qui te fait rire, ou qui a de l'humour, ou qui, justement, est pince sans rire, ou tu vois, tous ces trucs-là, je pense que, en fait, si tu fais pas transparaître une personnalité, là derrière, et en fait, c'est ce que maintenant moi j'explique à mes clients en leur disant, en fait, le truc, c'est que nous, on va vraiment travailler pour que derrière votre utilisateur, il ait l'expérience la plus fluide, du coup, et la plus complète et la plus dingue possible. Il faut vraiment qu'en soyant sur votre site, il ait l'impression de vivre quelque chose. Et surtout qu'il ait l'impression de vous avoir vous derrière et pas une machine. Et encore plus quand eux sont sur le terrain, je passe encore plus de temps, quand je dis eux, c'est mes clients qui sont sur le terrain, je passe encore plus de temps à parler avec eux, parce que je leur dis, le truc, c'est que le but, c'est pas d'écrire quelque chose qui sorte complètement de l'ordinaire et que quand ils vous rencontrent, ils se rendent compte que en fait, vous n'avez rien à voir avec ce qu'il a lu. Il faut vraiment que ça se ressemble. Et l'identité de marque, du coup, c'est aussi l'identité de ses représentants.
Ouais,
et donc,
c'est clair.
Venez, on travaille ensemble comme ça, en fait. Et en fait, c'est là que ça a commencé à prendre beaucoup plus de sens. Et pareil, quand tu annonces un résultat, une solution et un résultat plutôt à tes clients, plutôt que juste la manière dont tu vas travailler... Et en fait, ils sont beaucoup plus conquis et intéressés. Si tu leur dis, grâce à moi, vous allez avoir une expérience client beaucoup plus sexy, beaucoup plus sympa, avec des trucs beaucoup plus catchy, tout ça, vos clients vont avoir plus envie, je parle de call to action et tu vois, de tout ça, vont avoir plus envie d'aller vers cette page. On va faire en sorte qu'ils cliquent là-dessus, on va faire en sorte que ça vienne ici, on va faire en sorte qu'ils vous appellent, qu'on mette ça ici, et tellement on va utiliser des mots forts, tout ça. Et... quand tu parles de ça et quand tu leur dis, voilà, le résultat, c'est que vous allez avoir plus de prospects ou qu'on va aller chercher plus cette typologie de client, cette cible-là, etc. Et ben en fait, c'est là qu'ils sont beaucoup plus intéressés. Ouais. Alors que si je leur dis, je vais écrire comme ça, et je vais écrire 3 titres, ils disent, ouais, ok.
Et... ouais, c'est clair. et c'est vrai que c'est ça qui est cool aussi d'être à son compte, c'est d'avoir tellement de projets. En fait, moi, je me lassais trop vite. J'ai eu une opportunité d'intégrer une super boîte pour un super job il y a quelques temps. Et c'était hyper tentant, mais je dis, mais je sais qu'au bout de 6 mois, ouais, ça va me gaver.
Pareil.
Ça va me lasser. Et donc, du coup, là, le fait de travailler sur plusieurs projets, découvrir des nouvelles personnes et tout,
ouais,
ça, c'est,
oui,
c'est trop bien. Et puis, t'apprends tellement.
Je te rejoins, mais 1000% là-dessus. Mais vraiment, alors merci de le dire, parce que moi, je me sentais vraiment. Je vais pas dire chelou, mais tu vois, moi j'ai des potes qui sont dans leur job depuis des années, ils sont salariés, ils évoluent, ils ont des salaires, des primes, des trucs, des machins. Moi, le max que j'ai fait dans une boîte, c'est 2 ans, quoi.
Ouais.
Il faudrait que je compte, je pense qu'en tout, j'ai eu 13 expériences professionnelles, quoi. J'ai 28 piges. et alors, attention, tu vois, j'ai fait du BAFA, j'ai fait plein de trucs et tout, mais en tout cas, j'ai changé de métier plein de fois, j'ai tenté de monter des boîtes plein de fois et tout. Monter les boîtes, je les aurais continuées si ça avait fonctionné, si j'avais voulu les faire aboutir. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, c'est dingue, quoi. Je me retrouve exactement vraiment dans ce que tu dis. Mais par contre, je suis complètement épanouie, dans un truc depuis, je ressens plus besoin depuis que je suis freelance, tu vois.
J'étais comme toi avant, j'avais 10 000 projets à la minute. Sauf que depuis cet été, je pense, j'ai eu je pense pas que ce soit un burn-out ou un mini, tu vois. Et j'ai complètement craqué cet été et j'ai tout reposé à plat, ma vie perso, ma vie pro, le temps que je passais, etc. Et les objectifs et ma mission de vie et tout, tu vois. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, ok, tu veux faire ça, tu le fais. Et à partir de ce moment-là, j'ai été obsédée que par un sujet qui est l'UX writing, tu vois. Et là, si j'ai des idées qui viennent de temps en temps, non, c'est pas pour moi. Ça m'a pris énormément de temps parce que j'avais des idées tout le temps, tu vois. Je voulais trouver l'idée révolutionnaire et qui allait changer ma vie aussi, tu vois. Mais non, maintenant j'arrive à me focaliser et là vraiment que sur l'UX writing. Et après, deuxième chose, c'est que moi j'ai envie de rester seule.
Ouais.
Que j'ai pas envie d'embaucher, c'est une question que je me suis longtemps posée. Et tu dis, ouais, créer une agence et tout, tu vois, c'est vraiment cette ambition-là. Sauf qu'il y a des ambitions différentes. Je sais pas qu'il y en a une plus haute que l'autre, je pense. Et c'est juste, j'ai envie de rester seule. Déléguer des choses à des indépendants et tout, ou sous-traiter, ça me dérange pas et tout. Travailler avec d'autres, ce que je fais déjà. Mais embaucher, c'est pas du tout mon kiff. Je peux pas encadrer des gens, manager et tout, c'est pas du tout mon truc, même si j'aime bien parfois dans certaines expériences. Mais j'ai besoin que les gens ils se débrouillent tout seuls et qu'ils sachent faire, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, le truc, c'est que du coup, j'essaye aujourd'hui de faire un max de listes et j'ai fait un article sur l'organisation parce que du coup, je suis pas d'un naturel très organisé et hyper carré, tout ça. Et en fait, je m'étais dit, mais attends, on fait comment pour s'organiser quand on n'est pas organisé dans la vie? Comment je vais faire?
Ah, t'as pas le choix.
Non, carrément. Ouais. Et en fait, quand t'es freelance, t'as pas le choix du tout. Tu ne peux pas te permettre de rendre un projet client en retard, de ne pas répondre au téléphone, de louper une visio, tout ça. C'est un truc qui m'est jamais arrivé, bien évidemment. Mais je cherchais vraiment à avoir quelque chose de fort. Et donc, je me suis organisée. Et là, je me suis fait, tu vois, une to-do list de tous mes objectifs, genre d'ici à fin 2021.
Ouais.
Et avec plein de trucs. Et je t'avoue que, sur les projets futurs, en tout cas sur le court terme, je me suis fixé des objectifs de chiffre d'affaires.
Ouais.
Déjà, tu vois, par mois, avoir un fonds de roulement aussi avec, tu vois, des forfaits mensuels, trimestriels en fonction des clients sur des articles de blog, tout ça. J'ai vraiment envie de créer un podcast ou une chaîne YouTube, mais qui parle vraiment de stratégie web et de marketing dans son ensemble. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à apprendre pour pouvoir essayer de tout maîtriser. Que ouais, j'aimerais bien vraiment avoir en fait les avis de tout le monde sur bah voilà, toi t'es justement UX designer, toi t'es UX writer, faire des espèces de rencontres tu vois, entre plusieurs personnes, faire des podcasts à deux, trois,
ça peut être intéressant.
Même quatre, tu vois, et ou une chaîne YouTube, parce que pareil, il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Et aujourd'hui, YouTube, c'est vraiment un réseau qu'il faut utiliser et qu'il faut mettre en avant. Et puis surtout parce que tu le disais, c'est hyper inspirant. Et je pense que sur le long terme, je kifferais avoir ou m'associer, faire partie d'une agence, j'en sais rien, qui propose, tu vois, vraiment un espèce de truc de site web clé en main, où tu as vraiment un UX designer, un designer graphique, un développeur web, un UX writer, un rédacteur web, un content stratégiste, et vraiment proposer des sites, mais d'une qualité incroyable aux clients, et vraiment un truc clé en main, où tu vas pas passer par externaliser truc machin, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup.
Ouais, c'est clair. Et puis, t'as déjà parlé un peu des agences juste avant, mais enfin, moi, des agences que j'ai plus ou moins croisées ou avec qui j'ai bossé au travers de certains clients, etc., en fait, qui créent des sites web, il n'y avait jamais une personne en interne qui était chargée du contenu. Et c'est jamais quelque chose que les agences proposaient. Et donc, du coup, c'est toujours au client qui ne sait pas écrire, tu vois, par exemple. Enfin, clairement, c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est pas leur cœur de métier.
Ouais, c'est ça,
c'est... Du coup, c'était au client de fournir les contenus. Et jamais les agences proposaient, on va faire appel à quelqu'un pour faire les contenus, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi? Et du coup, tu te rends compte que le contenu, c'est toujours pour l'instant relégué au second plan. C'est et ça. Encore, enfin, et donc du coup, c'est très, très frustrant, voire énervant. Ouais. Mais ouais, si tu peux faire ça, ce serait cool, tu vois.
Mais le truc, c'est que je trouve ça frustrant parce que parfois, du coup, tu te rends compte que tu as certaines agences qui vont vraiment proposer des sites web. Mais quand je te dis, mais dingue, mais c'est beau, quoi. Tu vois, avec une interface de malade et tout. Mais les contenus, ils sont pourraves. Et en fait, le contenu, c'est quasiment la première chose que tu vois. Tu vois, la phrase, le truc, voilà. Et j'aimerais... Enfin, je veux refaire mon site en 2021. Et je voudrais vraiment le refaire en m'entourant de personnes inspirantes. Tu vois. Et qui m'aident, en fait, à le faire. Et soit, du coup, j'en ferai une série de vidéos, soit... genre un podcast, j'en sais rien. Mais je pense que je ferai une série de vidéos là-dessus. Parce que vraiment, je voudrais informer les gens sur l'importance, du coup, de tous les corps de métier sur un site web, sur un truc comme ça. Et donc, mettre en avant vraiment des personnes qui le méritent, tu vois, qui taffent dur pour faire ce qu'elles font. Et puis voilà. Et pas forcément faire que les contenus moi-même, mais aussi, tu vois,
mais c'est clair.
Personnes qui... Parce que pareil, encore une fois, tu vois, on apprend beaucoup tous les jours, tout ça. Pour l'instant, tous les contenus de mon site web, c'est moi. Je suppose que le tien, c'est ça aussi. Mais j'aimerais bien, tu vois, m'entourer de quelqu'un, d'un pro, soit un UX, soit un content stratégiste qui fait ça depuis des années et qui vienne, du coup, me coacher en me disant, bah voilà, ça, il faudrait mettre ça, t'as pas pensé à ça, tout ça. Et je pense que ça pourrait être un truc assez cool, tu vois.
Et c'est cool que tu abordes ce sujet-là parce que je voulais revenir aussi là-dessus, c'est que dans n'importe quel métier, c'est comme ça, mais la rédaction web, il y a vraiment, je pense que c'est important de le dire, il y a vraiment différents profils de rédacteurs web. Enfin, il y a les copywriters, maintenant il y a les UX writers, il y a les rédacteurs web purs SEO, et encore, enfin après, je peux mettre les community managers aussi dans la catégorie rédacteur. Mais c'est important aussi de dire que c'est pas parce qu'on fait de la rédaction web SEO qu'on sait faire du copywriting, qu'on sait faire du UX et du CM, en fait. Et,
complètement d'accord.
Et ça, pour une boîte, du coup, si tu veux tout, c'est faire appel à des personnes différentes. Mais oui, ok, c'est un budget, mais c'est la réalité, c'est, et on peut pas tout faire. Et du coup, je voulais te demander aussi si toi, t'avais à long terme, j'ai compris l'agence, mais si t'avais envie de... Quelle est la proportion de rédaction web et UX writing, en fait, et que tu aimerais avoir?
Je pense que... Du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis. Et c'est vrai, il y a plein de profils. Et ça m'arrive d'envoyer des messages sur LinkedIn, privé, aux gens qui m'inspirent et vraiment dont je trouve le travail incroyable. Et je trouve que c'est important de le faire.
Carrément.
Et donc, je leur envoie des messages vraiment pour leur dire « Salut, écoute, je t'ai découvert sur LinkedIn, dans tel podcast ou sur telle chaîne, etc. » Et vraiment, je tiens à te dire que le contenu que tu proposes est vraiment ultra quali, c'est trop bien. Et ça m'arrive, je le fais, tu vois, de temps en temps, je tombe sur des pépites, quoi. Et Mais Nana, la dernière fois, qui m'a répondu, et je lui ai dit, bah, c'est rare dans le milieu de la rédac d'avoir vraiment quelque chose comme ça, une offre si claire, c'est génial. Elle me dit, mais par contre, elle me dit merci beaucoup, mais par contre, je me définis absolument pas comme une rédactrice. Moi, je suis copywriter, je suis content stratégiste, et je ne suis pas rédactrice.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'en plus, on avait eu le débat avec bah, une consoeur quelques semaines auparavant. Et je pense qu'aujourd'hui, la rédaction web... En tout cas, c'est pas vers la rédaction web que je veux m'orienter le plus.
Ouais.
Je pense que vraiment, ce qui va m'intéresser le plus, c'est le côté UX et stratégie de contenu.
Ouais.
Parce que pour moi, c'est vraiment, tu vois, tout ce qui va se... En fait, tout ce qui est stratégie, marketing de contenu, UX. Parce que en fait, pour moi, c'est vraiment un truc qui va complètement ensemble. Et la rédaction web, c'est trop cool tout ça. Mais je pense que je pourrais l'utiliser parce que c'est quelque chose que je commence vraiment à très bien maîtriser. Le SEO aussi, tout ça. Je pourrais l'utiliser, tu vois, en plus, tu vois, dans tout ça. Mais je pense que demain, ce sera vraiment l'UX writing, la stratégie de contenu, la stratégie marketing, le copywriting. Vraiment faire une espèce d'enveloppe, tu vois, de tout ça, où tu mets l'expérience utilisateur et la stratégie, tu vois, de ton client au cœur de son projet.
Ouais, clairement.
Donc,
Et du coup, tu as envie de travailler, si on reste sur l'UX writing, tu as envie de bosser dans des équipes du UX designer, etc.
Ouais, carrément.
De toute façon,
je pense, ouais, voilà. De toute façon, tu peux pas faire autrement. Ouais. Et c'est surtout que. Alors, je le fais un petit peu avec des agences. Tu vois, c'est ça que je disais. J'ai pas encore eu de mission complète sur le développement, par exemple, complète d'une application.
Ouais.
Mais j'ai des petites missions comme ça en UX. Quand là, j'ai une agence avec qui je travaille beaucoup, qui me fait confiance depuis plus d'un an maintenant. Et avec qui je m'entends très très bien et qui refait, tu vois, un nouveau site pour elle, du coup, pour un nouveau concept, et qui m'a demandé du coup d'intervenir avec son UX designer et avec du coup son designer web. Et et pour le coup, ils sont deux sur le projet. Et là-dessus, du coup, c'est vachement cool parce que je vais vraiment pouvoir travailler avec eux du début à la fin.
Ouais, tu vas apprendre
sur exactement toute l'interface et en plus de ça, du coup, la rédac web et donc tous les textes qui vont composer du coup ce site-là. Et ça, c'est des trucs que
Mais c'est trop cool, tu vas apprendre. Ouais, bah, moi, je kifferais aussi intégrer une équipe. Et c'est vrai que moi, j'en discutais avec une UX writer et elle disait que la dérive qu'il peut y avoir, c'est qu'il y en a plein qui s'improvisent UX writer. Après, il faut débuter quelque part, forcément. Mais c'est juste que, bah, comme ça devient un métier cool, comme ce qu'a connu l'UX design et l'UI design, hein, clairement. Et en plus, il y a plein d'UI designers. Au final, ils ne sont pas vraiment UI designers. Ils sont vraiment plus sur l'aspect graphiste. Enfin, bon, bref. Après, c'est comme dans n'importe quel métier. Mais oui, la dérive qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent s'improviser UX writer sans avoir la partie UX. Et c'est ça que moi, j'aimerais vraiment creuser de par la formation que j'espère suivre en janvier. Et j'aimerais vraiment intégrer une équipe pour vraiment avoir tout le process.
Ouais.
Et puis, c'est important. Et en fait, aussi, il y a des boîtes, des grosses boîtes, qui font appel à des UX writers parce que c'est cool. Parce que c'est cool et un UX writer, tu vas me mettre un petit trait d'humour à la back market dans
back
mon
market,
interface.
Dieu, la passion back market, je rêverais de bosser pour eux.
Ouais, bah en fait, back market, pour le coup, ils font pas mal d'humour.
Ouais.
Mais des fois, on le comprend pas en fait.
Ah, enfin, en tout cas,
ils sont quand même décriés par pas mal d'UX writer en France.
Parce qu'ils sont. Pas mal. Enfin, après, c'est encore une fois chacun son style et son avis.
Après,
mais...
c'est juste que c'est pas forcément compris. Ou comme il y a une nouvelle boîte qui a émergé là avec le confinement, concurrente de Leroy Merlin, je vois les affiches dans les métros, tu vois. Et ouais, il y a un trait d'humour, je vois une cheminée avec une phrase drôle, mais j'ai dû demander à des amis, ils font quoi ? Je ne comprends pas ce qu'ils font, tu vois.
Ça,
c'est en détriment, l'humour, c'est en détriment.
Ouais.
Et un UX writer, c'est pas fait pour ajouter un trait de cool. C'est vraiment fait pour faire entendre, refléter la voix de la marque qui parle aux utilisateurs, quoi. Et qui les guide, qui les rassure, etc. Et...
Après, tu peux ajouter un trait d'humour si c'est maîtrisé. Encore une fois, tu regardes aujourd'hui, en tout cas, les boîtes, en fait, c'est surtout vraiment outre-Atlantique que ça se passe, tu vois. Aux États-Unis, les UX writers, c'est... hyper demandé et surtout hyper bien payé. Et en fait, chez, tu vois, TikTok ou chez Google ou des trucs comme ça, tu vas avoir parfois vraiment, mais c'est très léger en fait, ça va te faire sourire. Disney par exemple, Disney au niveau UX writing pour le, enfin tout, mais vraiment au niveau UX writing, le truc c'est que c'est, je lisais la dernière fois un article très intéressant sur eux qui disait c'est vraiment les créateurs d'émotions par excellence en fait. Et donc du coup, ils le reflètent complètement
dans
le UX writing de leur site. Et même leur page d'erreur 404, mon dieu, ça, elle est géniale. Mais en fait, tout est bien. Et donc du coup, mais il y a des traits d'humour, mais ils sont très légers. Et moi, je... Après, c'est vraiment mon truc, mais moi, tu vois, dans ma personnalité, du coup, je rigole beaucoup, je lance toujours plein de petites...
Après, tu vas... Ouh là là, qu'est-ce
que c'est? C'est ça.
Mais c'est vrai que dans tous les cas, t'attires des boîtes qui te ressemblent.
Mais voilà, mais après, tu vois, j'ai déjà, pour le coup, on m'a déjà dit, attends, il faut être plus sérieux, ou alors... en fait, ça m'est jamais arrivé de me dire non, c'est pas assez sérieux. En fait, c'est surtout parce que je pense que notre cœur de métier, c'est aussi la force, tu vois, d'adaptation et de savoir se dire ok, tu vois, on va s'adapter là dès le début et justement l'écoute de et puis l'analyse en fait de toute l'identité. Justement, on en parlait au début, mais je pense que c'est un mot qui revient tout le temps, l'identité du coup de marque sur laquelle tu travailles, et ben c'est là que tu vas savoir quel tone of voice justement utiliser. Et enfin, en partie, mais le truc c'est que c'est très important. Donc,
c'est clair.
Donc moi j'utilise beaucoup l'humour pour moi et ça fonctionne parce que tu vois, sur LinkedIn, tu m'as dit, je me suis fait tout ça. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages pour me dire votre site, trop bien.
Ouais, t'attires des gens qui te correspondent.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, à côté, s'il faut travailler pour des marques hyper sérieuses, je le fais et il n'y a aucun problème avec ça, quoi.
Ouais, tant que tu kiffes, tant que tu t'éclates, ouais, c'est clair.
En fait, je me suis vraiment trop découvert une passion pour l'écriture web à travers, du coup, tout ce que ça implique, l'UX, le marketing de contenu. Parce que vraiment, ça, tu te rends compte qu'il y a tout un monde autour de ça et qu'en fait, on n'est pas assez informé. Tu vois, quand on commence à
se former. Puis on sent trop, en fait.
Exactement.
On sent trop les...
On sent trop, et alors que devrait y avoir un truc qui regroupe tout. Il faut vraiment essayer de créer une homogénéité, tu vois, dans tout ça. Pour l'instant, je trouve que vraiment, on est dans un secteur dont les métiers sont trop hétérogènes, où vraiment tout est tranché comme ça. Donc, on externalise, on prend là. Personne travaille vraiment ensemble. Et voilà. En fait, il y a tellement de choses à voir et tellement de choses à apprendre que oui, je pense que peut-être que d'ici quelques années, on sera les pionnières de quelque chose. Mais parce que il y a 10 ans, déjà, le rédacteur web, tu t'entendais quasiment pas parler.
Ouais.
On savait même pas ce qu'était qu'un UX designer, on savait même pas ce qu'était qu'un community manager. Et aujourd'hui,
ça évolue.
Exactement. Et je pense que du coup, dans 10 ans, ce qui est pas si loin que ça, vraiment, on pourra se dire, en fait, on a connu toute cette transition. Et je pense que vraiment, ça va être une période dingue les prochaines années, parce que c'est là où on va vraiment apprendre le plus.
Après là, je sens que, j'ai demandé aussi à des UX writers qui font leur métier et qui sont maintenant seniors, qui ont été vraiment dans les pionniers. Et il y en a une, je lui ai demandé, mais tu dois en voir maintenant tellement pulluler là d'UX writer de profil. Elle fait, ça prend là tellement, sauf que pour l'instant, en termes de demande, c'est pas énorme, ou alors c'est des grosses boîtes. Et moi, je suis pas fermée du coup au salariat pour pouvoir monter en compétence justement sur le UX writing et intégrer une équipe, tu vois. Pour le coup, je me suis rendu compte, j'ai accepté ça parce que moi c'était genre mon compte, plus jamais je revenais, mais si j'ai une super opportunité en UX writing, je me ferme pas du tout à la porte du salariat parce que c'est hyper enrichissant, quoi. Du coup, pour conclure, si on veut te suivre, échanger avec toi et te dire combien c'est merveilleux ce que tu fais, comme tu peux faire pour les autres, où est-ce qu'on veut te contacter?
Alors du coup, il y a évidemment du coup LinkedIn, c'est Louise Ballereau, vous verrez le nom évidemment.
Moi, je mettrai dans les notes.
Exactement. Et puis ensuite, j'ai un site qui s'appelle Prête-moi ta plume. Voilà, et j'ai mon site, mon adresse mail, tout. Et vous allez sur LinkedIn, vous avez toutes mes coordonnées. Vous allez sur mon site, vous avez toutes mes coordonnées. Et puis un petit blog où j'écris un petit peu plein de trucs pour moi, et puis parfois pour les autres, mais souvent du coup c'est pour moi et pour Google.
Il y a toujours un. Tom, merci beaucoup, c'était cool.
Merci à toi, franchement c'était trop bien, j'ai adoré faire ça, vraiment.
Moi aussi, j'ai trop kiffé, ça va être un épisode qui va sortir un peu de l'ordinaire, mais c'est cool.
C'est trop bien.
D'échanger sur nos débuts.
Une discussion, exactement, très enrichissante. Merci beaucoup.
Un grand merci à Louise pour ces échanges. J'espère que vous avez apprécié cet épisode à la cool, qu'il vous a fait sourire et surtout qu'il vous a appris des choses. Je reçois de temps en temps des messages sur LinkedIn de rédacteurs ou même de designers qui s'interrogent sur l'UX Writing. Comme eux, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message ou à envoyer un message à Louise d'ailleurs. C'est un métier nouveau, il n'y a pas énormément de ressources sur le sujet, alors autant partager un maximum et s'entraider pour monter en compétences. Comme d'habitude, vous retrouverez les notes de l'épisode et ressources citées sur mon site apollinerouze.fr. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note, comme un 5 étoiles, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ça m'aide à le faire grandir et surtout à savoir si vous êtes utile ou non. Dernière petite chose avant de vous quitter, si vous souhaitez améliorer concrètement les contenus de votre interface web ou mobile, je vous donne rendez-vous sur mon site pour vous inscrire à ma newsletter. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao !